Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
After Galaxy saison 2 épisode 2, le Paris Saint-Germain se rend en Israël pour y affronter le Maccabi Haïfa en phase de groupe de Ligue des Champions. L'occasion de vous offrir un voyage dans le temps et dans l'espace, on va retourner 24 ans en arrière. La France vient de remporter la Coupe du Monde, Titanic, le dîner de cons et Taxi cartonnent au cinéma. Faudel et son 10 mois se vend à merveille et le 16e de finale qui oppose le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa est un petit mélange de tout ça.
Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain !
Eh bien, ici à Nagano...
J'en tiens, comment est-il ? Un champion du monde.
C'est quoi votre métier ? Hein ? Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. Vous travaillez quoi au cirque, dans un zoo, à l'NPE ?
Alerte générale !
L'humiliation du Paris Saint-Germain hier lors des 16e de finale de la Coupe des Coupes. Le PSG a été battu par le Maccabi Haïfa.
Paris nous rend fous.
Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très, très bonne année. Vive la République et vive la France.
Il avait 22 ans et il était déjà l'un des tauliers du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui consultant foot, conseiller sportif au sein de l'agence Kémari. Pierre Ducrot nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Pierre.
Salut Nico.
Et bienvenue à la maison.
Eh bah oui, ça fait plaisir de revoir tout le monde.
Alors ça fait plaisir, je sais pas si ça va te faire plaisir, hein, ce qu'on va revivre dans quelques instants également.
Non, ce qui m'a fait mal, c'est le dîner de con. Parce que pour moi aujourd'hui, quand je revois le dîner de con, c'est un film mais de l'âge de mes parents, tu vois.
Ah, ça te met une claque, tu vas dire.
Et ça, en fait, c'est sorti en 98.
C'est sorti en 98, ouais. Tout comme d'ailleurs, bah, tout ce qu'on a passé, parce que ça datait de 98.
Ouais, ça met une claque, ouais. On est vieux.
Alors, quand le tirage sort de la phase de groupe de Ligue des Champions de cette saison a mis le Maccabi Haïfa dans le groupe du Paris Saint-Germain, on y a tous repensé à ce duel de 98-99, qui, même s'il est douloureux pour les Parisiens, fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Eh ben, on y va. Nous sommes le 17 septembre 1998. À Paris, la comédie musicale Notre-Dame de Paris a livré sa première. La veille, au Palais des Congrès, tandis que, dans un autre style, la première de la Technoparade est en train de se mettre en place. Tu y étais ?
Pourquoi pour Notre-Dame ?
Je sais pas, t'as fait l'un des deux ou pas ?
Non. De mémoire, non, ni l'un ni l'autre.
Alors pour le Paris Saint-Germain, ça va être une autre chanson. Hein. Le Maccabi Haïfa sera en Parc des Princes en 16e de finale. Allez, de Coupe des Coupes, match diffusé par Canal+, avec Thierry Gilardi et Jean-Luc Haribard au commentaire.
Il vient d'obtenir un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Alors, Simone, il avait transformé un pénalty sur cette pelouse du Parc des Princes en championnat contre Lorient. Là, il est face à Davidovic et 1-0 pour le PSG. Eh bien, c'est un soulagement pour les joueurs, pour le staff technique du Paris Saint-Germain. Oh oui,
c'est bien donné.
Que Ben Ayoun face à Lama qui va égaliser. Égalisation de Ben Ayoun, la petite merveille du Maccabi Haïfa qui vient tromper, gagner son duel face à Bernard Lama. Égalité entre le PSG et le Maccabi. Voilà Ben Ayoun.
Un partout donc à l'aller entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa. Alors Pierre, t'étais absent lors du match aller.
Je regardais Notre-Dame.
Ou t'étais à la Technoparade.
Ou à la Technoparade.
Alors est-ce qu'après ce un partout côté parisien, vous disiez que ça allait passer? Vous étiez dans quel état d'esprit? Plutôt confiant ou pas à l'époque?
Écoute, de ce que je me rappelle de toute manière, que ce soit l'aller comme le retour, effectivement, alors, est-ce que c'était un excès de confiance ou est-ce que c'était juste normal d'être confiant avant un match comme ça où logiquement tu dois t'imposer? Ouais, j'ai pas souvenir qu'en tout cas on est méfiant et qu'on s'occupe de Ben Ayoun ou de Mezraie avant de jouer. Ouais.
Alors, question aussi, c'est qu'est-ce que vous connaissiez de cette équipe du Maccabi Haïfa avant ce match aller en 98? Comment on préparait ces matchs? Aujourd'hui, on a des white scouts, des cams isolés sur les joueurs, etc. Comment on préparait un match face à une équipe qui n'était pas très médiatisée finalement à l'époque?
Pas du tout même. Enfin voilà, en tout cas, de ce que je me rappelle 24 ans en arrière, c'est que déjà les matchs de Ligue 1, on ne les préparait pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'on avait, quelques images, nous, on mettait quand même la VHS ou le DVD avec quelques actions. Honnêtement, le Maccabi Haïfa, je ne me rappelle pas d'avoir fait une vidéo avant le match. Donc, on ne connaît rien de cette équipe. Et en même temps, est-ce qu'on doit connaître quelque chose de cette équipe? quand on est le Paris Saint-Germain de l'époque et où on doit s'imposer par notre jeu, par nos qualités. Le problème, on va sûrement en parler, c'est qu'on n'arrive pas à s'imposer.
Et bien justement, avant de passer au match retour entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain de cette C2 98-99, il faut qu'on replante le décor, le contexte de ce PSG-là. Beaucoup de mouvements au cours de l'été 98, beaucoup de départs marquants notamment. Quelques mois plus tôt, on est en avril 98, Raí disputait son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Les larmes du Brésilien devant les supporters
bravo,
du Parisien.
Bravo à celui qui a mis le micro au bon endroit quand même, parce que c'est extraordinaire.
Alors tu rigoles, mais je te sens un peu ému quand même.
Non, je rigole pas, je souris, mais je souris d'émotion, parce que j'ai les poils qui s'hérissent. On était tous derrière lui, je me rappelle très bien, un peu comme quand Bernard Lama avait arrêté aussi. Voilà, c'était quelque chose de très 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 dur à l'époque, et lui il le vit tellement intensément avec le virage Auteuil, on se rappelle très très bien. Qu'effectivement, tu as beaucoup, beaucoup d'émotions à le réécouter après.
Alors, tu étais un jeune joueur à l'époque, hein, je le disais, tu avais 21, 22 ans. Est-ce que tu t'es senti un peu orphelin de Raí, qui était capitaine de l'équipe du Brésil en 94 notamment ?
Pas que de Raí, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est que c'est au fur et à mesure, ces deux années-là, il y a l'année d'avant aussi déjà, quand il y a quelques joueurs qui arrêtent. Nous, on gagne Coupe de la Ligue et Coupe de France l'année précédente, où on a comme coach toute l'année Joël Batz et Ricardo, parce que Ricardo aussi a arrêté. Joël Batz, lui, est parti ensuite pendant l'été également. T'as plusieurs joueurs, on va sûrement en parler, mais qui ont arrêté. C'était des piliers de l'équipe, mais aussi du club quasiment. Quoi. Des Roches, des Guérin, des Le Guen. Enfin, c'est des garçons qui ont fait l'histoire.
Il y a Fournier, Loco, Ngoti, Alain Roche qui partent cet été-là.
Tu vois, c'est que des gars qui... Et avant ça, t'en as quelques-uns aussi qui ont arrêté. Donc, il ne reste plus que finalement, de cette époque-là, Bernard Lama dans les buts.
Revient d'ailleurs.
Qui revient, voilà. C'est tout. De cette époque-là, de cette génération-là, il n'y a plus que Ber dans les buts.
Donc on est ça, tous ça a pesé,
un peu. Ouais, bien sûr, parce que quand tu affrontes. Alors on le sait peut-être pas encore, nous, tu vois. On vit ça avec beaucoup d'émotion, l'arrêt de la carrière de Raí au Paris Saint-Germain, parce que c'est émouvant. On se rend peut-être pas compte tout de suite que malheureusement, pour reconstruire derrière ça, ça va être très dur et ça va être même impossible la saison d'après où on n'y arrive pas. Quoi. On n'y arrive pas parce qu'il nous manque des tauliers, des vieux briscards pour construire cette saison qui démarre très mal.
Alors il y a beaucoup de départs, il y a aussi beaucoup d'arrivées au PSG au cours de cet été 98. Ada Hilton débarque de Parme, Wedek de l'Espagnol Barcelone, Laurent Leroy de Cannes, Bernard Lama, on le disait, est de retour au Parc. Mais la principale recrue parisienne arrive du Fenerbahçe.
PSG, le Paris Saint-Germain se renforce pour la saison prochaine. Le Nigérian Okocha, la révélation du mondial, quitte la Turquie pour venir jouer en France, à Paris. Montant estimé du transfert, plus de 100 millions de francs.
Alors, on est en avril 98, le JT de France 2 évoque l'arrivée de JJ Okocha au Paris Saint-Germain, qui devient la recrue la plus chère de l'histoire du championnat de France. Il le dit, ça fait 15 millions d'euros aujourd'hui, mais 100 millions de francs, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Comment vous avez accueilli cette arrivée à l'époque, Pierre ?
Très très bien, très très bien. On est tous très heureux de le voir arriver, même si finalement, un peu comme ce qu'on a dit avant, on mange pas autant de foot au quotidien qu'aujourd'hui. Donc JJ Okocha qui joue en Turquie, on a quelques images, bien entendu.
Il y a la Coupe du Monde, notamment.
Voilà, il y a la Coupe du Monde aussi. On sait ce qu'il est capable de faire. Mais aujourd'hui, on connaîtrait par cœur JJ Okocha avant qu'il arrive chez nous. Là, on l'accueille comme un très bon joueur, mais on attend de voir, quoi. On attend de voir ce que ça va donner dans le championnat de France. Mais par contre, on l'accueille très bien et puis ça va très vite avec JJ, parce que JJ, c'est quelqu'un de très souriant. Il arrive dès le premier jour jusqu'au dernier avec la banane tous les matins à l'entraînement. Donc, c'est quelqu'un que t'as envie d'accueillir chez toi tous les jours jusqu'au bout.
Il n'y a pas de tension particulière liée à son prix, au transfert,
une étiquette.
Le joueur le plus cher de l'histoire du championnat.
Non, il n'y a aucune tension comme ça avec JJ. Honnêtement, celui qui se crée des tensions avec JJ, il faut vraiment qu'il soit idiot, parce que c'est une crème, JJ.
Et sur le terrain, aux entraînements, phénomène.
Et sur le terrain, moi, c'est un des joueurs, si ce n'est le plus fort avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Ouais, bien sûr. Et je dis ça, on vient de parler de Raí juste avant, on vient de parler intrinsèquement, on est au niveau des qualités. Physiquement, c'est un monstre. Je sais pas si les gens s'en rappellent, mais il a des cuisses mais énormes. Il est capable de faire des transversales à 2 mètres de hauteur tendues sur 70 mètres. Moi, j'ai vu personne capable de faire ça. Il est capable de frapper très fort au but. Il est capable d'être très fin avec le ballon. Il est capable de courir s'il a envie. Parce que c'était peut-être son seul défaut, c'est que il voulait s'amuser, JJ. C'était un joueur de foot. C'était pas, il avait pas envie de tous les jours de se faire mal, quoi, en fait. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait cette carrière où il aurait peut-être dû en faire une autre. Mais c'est un joueur extraordinaire.
Alors sur le banc aussi, il y a du changement. Hein. La saison précédente, le Paris Saint-Germain qui avait terminé 8e de Ligue 1 avec Ricardo Ebat aux commandes, tu l'as dit il y a quelques instants, bah, il est remplacé par Alain Girès qui vient de faire une grosse saison avec Toulouse. C'est quoi l'objectif au début de la saison pour ce PSG ? Alors qui a terminé ventre mou, est-ce que c'est le titre ?
Non, écoute, j'ai pas de souvenir précis, donc je vais pas mentir, mais je ne pense pas qu'on nous ait demandé dans le vestiaire au niveau des dirigeants d'être champion de France cette année-là. J'imagine quand même qu'un garçon comme Charles Bétry à l'époque, qui est quand même expérimenté, qui connaît un peu le foot, sait que ça va être une année de transition aussi où il va falloir mettre des choses en place. Par contre, il y a quand même des attentes qui se créent naturellement parce que quand tu recrutes comme tu recrutes, bah forcément, tu sais que derrière il y a des attentes du public déjà, voilà, et puis il y a des attentes des dirigeants.
Et alors, les débuts de Girès sont plutôt compliqués malgré le trophée des champions remporté d'entrée cette saison-là. Au moment du 16e de finale retour, parce qu'on y va de cette Coupe des Coupes à Haïfa, le PSG compte une victoire en 5 matchs. Ouais. On est le 1er octobre 98. Le PSG se rend au stade Kiryat Eliezer avec ce 1 partout concédé à l'aller. Le stade qui a une petite enceinte, hein, 14 000 places et blindé. Est-ce que tu as un souvenir de l'ambiance déjà avant qu'on replonge dans le match ?
Ouais, alors déjà pour le contexte, le trophée des champions, c'est un leurre, quoi, parce que derrière on vit un début de saison, tu l'as dit, qui est compliqué dans le jeu. Dans le jeu, ça va, on sent que ça va pas, quoi. Et on arrive là-bas où, ouais, j'ai des souvenirs. Pourtant, tu me connais un petit peu, j'ai pas énormément de souvenirs de foot. L'ambiance là-bas, tu sens que ça va être chaud. Voilà, j'ai eu l'occasion de jouer en Grèce après, tu retrouves ces ambiances-là. Voilà, c'est dans ces pays chauds. Voilà, le climat y participe d'ailleurs aussi. Tout le monde est un peu excité, énervé. Alors il y a une bonne ambiance, hein, c'est pas malsain, très honnêtement. On arrive en bus, le bus est entouré sur la route devant le stade, etc. Mais il y a pas un caillou qui arrive sur notre car, il y a pas quelqu'un qui frappe dans notre bus ou quoi que ce soit. Mais tu sens que ça va être très chaud. Et quand tu arrives sur le terrain, effectivement, tu prends une... C'est que 14 000 personnes. On a joué dans des stades bien plus grands que ça. Mais c'est 14 000 personnes qui sont pour le Maccabi. Et il n'y en a pas un qui siffle pas quand on rentre sur le terrain, je pense.
Bah, l'ambiance est chaude, la rencontre aussi. On retrouve Thierry Gilardier et Jean-Luc Haribar sur Canal. Comme à l'aller, la rencontre ne débute réellement qu'en seconde période. On est à l'heure de jeu.
Oh, non, c'est pas fini avec le but de Keïté. But de Keïté après 13 minutes en seconde période après un premier ballon. Il a touché les montants de la cage de Bernard Lamar. Le Maccabi Haïfa mène un but à 0. Alors qu'on est en train de s'expliquer dans le rond central avec les Parisiens, avec Diego Cocha. Coppel était dans ce coup-là également. Bernard Lamar, un homme d'expérience, vient essayer de ramener le calme alors que Mizrahi, lui, essaye de rallumer une mèche.
Ouais, grosse embrouille après ce premier but de Mizrahi. On sent que le climat est tendu sur le terrain aussi. Hein.
Ouais. Alors, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le match débute réellement au bout d'une heure de jeu, parce que dans la construction du match, en première période, on l'aborde plutôt bien le match, sauf qu'on a 2-3 occasions et on les rate. Et dans un match comme ça, inconsciemment ou pas, je sais pas, mais quand t'es joueur, il y a l'ambiance, il y a le contexte, il y a des morts de faim en face de toi, et tu te dis, ah, on rate en première période.
Est-ce qu'on va le payer ?
C'est 2-3. En général, tu le payes, quoi, en fait. Ouais. Et inconsciemment, je pense que tu le sais que dans la construction de l'événement, après, derrière, je pense que ça joue un rôle. Après, oui, le but, l'embrouille.
Tu t'en souviens, tu t'es embrouillé, t'es dedans.
Ouais, je m'en souviens parce qu'en fait, c'est Djégé justement qui se fait embrouiller. Moi, j'étais un peu son
garde du corps.
Ouais, son garde du corps à Djégé. C'était notre joueur de ballon, et moi, j'étais là pour le protéger. Et je me rappelle que ils sont malins en face, et puis ils ont ça dans le sang un petit peu. Voilà, ils savent qu'il faut jouer avec le contexte, et Mizrahi, il marque le but et il embrouille JJ. Et JJ se fait embrouiller. Moi, j'y vais, je crois que je prends un jaune sur le truc, et il y a la sagesse de Bernard qui arrive et qui sépare tout le monde. Je crois qu'il y a Gomme aussi qui vient et qui nous sépare un peu tous. Mais voilà, t'es dedans, ça y est, c'est parti. T'es dans ce qui va devenir, malheureusement pour nous, une contre-performance horrible.
72e minute de jeu maintenant. Le Maccabi Haïfa mène donc 1-0 face au Paris Saint-Germain, qui est obligé de réagir.
Ducrot, Wedek au Cocha, à nouveau pour Nicolas Wedek, elle peut être bonne, et but, égalisation de Nicolas Wedek sur une grosse erreur de Davidovic. C'est bien pour le Paris Saint-Germain qui, à moins de 20 minutes de la fin de la seconde période, arrache peut-être le droit à la prolongation.
Oui, alors c'est marrant, en écoutant cet extrait, tu me dis, t'entends le silence dans les tribunes.
C'est fou quand tu écoutes les deux extraits l'un après l'autre. Le premier, c'est le feu, le deuxième, c'est un silence de cathédrale. Bon, bah voilà, c'est l'égalisation.
Grosse boulette des gardiens quand même des Verts. Est-ce que vous dites à ce moment-là que la chance elle tourne?
Alors honnêtement, quand tu m'as dit ça avant l'émission, je me souviens pas de le.
Ouais, de main de fou.
D'accord, ok. Je me souviens un peu de l'action où effectivement, c'est plein axe et Nico Wedek tire pied gauche, je crois. Mais je me rappelais pas que c'était une boulette du gardien après. Bon, tant mieux. Je peux pas te dire si à ce moment-là on est juste soulagé et on se dit ça va le faire, ou si on s'enflamme un peu et qu'on se dit voilà, bon, c'était un accident de prendre un but, c'est bon, ça va, voilà, on va se qualifier, on va le faire, on va finir en trombe. J'arrive plus à le savoir.
Bah, sauf que 6 minutes après l'égalisation de Nicolas Wedek. Ouais.
Benayoun, Katan qui a complètement permuté, qui essaye de contourner, centre but. Raï avec une action formidable de la part du Maccabi Haïfa. C'est Mizrahi qui permet au Maccabi de mener 2-1.
Voilà, Mizrahi, encore lui. Alors, belle action collective, hein, d'ailleurs, du Maccabi.
Mais où on défend mal, Haïfa. On défend mal, je m'en rappelle. Je crois que c'est Nico, il m'en voudra pas, Nicolas Spal, il y a prescription. Mais je crois que c'est Nico qui s'arrête de courir, de défendre et qui suit pas son gars dans la surface, qui hérite du ballon, forcément, comme toujours, quand tu t'arrêtes. Voilà, ça se passe comme ça. Et là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout.
Est-ce que vous avez été surpris par le jeu du Maccabi Haïfa? Tu trouves que c'est une équipe qui joue? Parce que les buts, on les voit, ils sont quand même pas mal. Hein,
pas tant que ça, ouais. Alors peut-être, j'ai pas voulu regarder, moi, justement, je te l'ai dit.
Tu voulais pas te spoiler, toi.
Ouais, voilà, exactement. Je voulais pas me spoiler, je voulais pas me tronquer les souvenirs que j'en avais, parce que voilà, ils sont comme ça. Peut-être qu'ils sont pas tous justes, mais c'est ceux que j'ai et je voulais les garder comme ça avant de faire le podcast. Mais j'allais te dire quoi? Le jeu du Maccabi, je pense pas qu'à l'époque. Le Maccabi est une magnifique équipe de ballon. C'est pas ça, c'est qu'on les met, on fait pile poil le match qu'il faut pour les mettre en confiance. En fait, ils sont chez eux, il y a le feu, on n'arrive pas à marquer. Je reviens là-dessus parce que pour moi c'est très important, ce premier but qui leur aurait sans doute fait très très mal. Et donc, au fur et à mesure, comme tout le temps dans ce genre de match où tu as un gros et un petit, bah, le petit il prend confiance et le petit il est sur un nuage et bah, voilà, il enchaîne des choses. Alors, une action du Maccabi contre le PSG, ça te paraît être le City aujourd'hui qui joue pendant une demi-heure et qui garde le ballon. Sauf qu'à l'époque, c'est vraiment dans un contexte et où je ne suis pas sûr qu'il nous bouge par le jeu. Au contraire, il faudrait peut-être revoir le match dans sa globalité. Mais je pense que les événements, ils sont pour eux et que ça s'abat sur nous, quoi.
Alors à 2-1, le Maccabi Haïfa est qualifié pour le 8e de finale de Coupe des Coupes. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain pousse.
Pour Simonet encore, il est dans la surface. Marco Simonet centre, but au cochon, but d'Augustine, au cochon, servi par Marco Simonet. Et le Paris Saint-Germain égalise à 2-2 pour le moment. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG est qualifié.
Eh oui, parce que la règle du but à l'extérieur est encore en vigueur. Et comme le dit Gilardi, à 2-2, le PSG est qualifié. Là, il reste une poignée de secondes à jouer. Je reviens encore avec cette question, mais ça fait deux fois qu'on revient au score. Là, vous vous dites, c'est bon, les gars, il reste 4 minutes, on va venir, c'est parfait.
Je vais te dire, je pourrais même ne pas avoir de souvenir. Tu es obligé de réagir comme ça quasiment, quoi. C'est bon d'entendre la voix de Gilardi à nouveau. Ça fait du bien. Et même lui, tu sens, quand il dit pour le moment, parce qu'il sait qu'il peut se passer plein de choses, il y croit quand même. Voilà, il se dit à 2-2, là, 4 minutes de la fin, c'est plus possible, quoi. Et nous, on est dans le même état d'esprit, je pense. Sauf que, il y a un contexte, une nouvelle fois, et où je ne sais pas si c'est le début de l'ADN du PSG, il se passe ce jour-là ce qui va se passer dans toute l'histoire du PSG sur certains matchs. Quoi. Et malheureusement, j'y ai participé à quelques-uns.
Alors, ce match est complètement fou. Jusqu'au bout, nous sommes dans le temps additionnel.
Benayoun pour Mizrahi. Mizrahi contré, remarque au but. Et il est validé par M. Metz. C'est pas possible que le Paris Saint-Germain se fasse surprendre dans les arrêts de jeu. C'est incroyable.
Eh ouais, c'est incroyable, dit Thierry Gilardi, Pierre. Alors, tu me faisais signe de la main, ça a été l'ascenseur émotionnel, montagne.
Non, je te faisais la courbe du ballon, je m'en rappelle encore. C'est très très long. Moi, je suis devant la surface, je m'en rappelle. On se fait pas surprendre. C'est une action. Je sais pas si tu l'as revu. Tu l'as revu, toi.
Mais
il est excentré. Il est excentré, Mizrahi. Il peut pas marquer de là. En fait, il faut pour marquer qu'il y ait une frappe contrée par un tibia. Je sais plus si c'est un tibia, une cuisse, un genou de Goma pour que ça passe au-dessus de Bernard Lama, qui était pas le plus maladroit en termes de détente pour aller chercher ce genre de ballon. Mais ça lui passe pile poil au-dessus pour finir au seul endroit où ça pouvait finir. Ces petits filets opposés, quoi. C'est. Quand je te parle de l'ADN du PSG, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si le mec il frappe bien et que ça passe entre les jambes de Gomme, ça passe au milieu de la surface, il n'y a personne qui peut la prendre. Enfin, tout va bien quand on est qualifié. Bah non, c'est contré, ça prend une courbe, voilà, comme ça, là, exponentielle, là, hop, et ça finit dans le but. C'est Et on est tous abattus, t'entends le stade, là, c'est terrible. Parce que là, à 2-2, tu sais que t'es qualifié. Là, à 3-2, à 92e, tu sais que c'est mort, quoi, ouais. Déjà.
Quand tu dis l'ADN, tu fais forcément référence aux désillusions récentes du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe.
Pas que récentes.
Ouais, même celles qui ont suivi, ouais.
J'allais t'appeler cousin.
Ouais, ouais, tu peux, ouais.
Je peux, j'ai le droit. C'est pas que récente. Moi, je vis la Corogne, je vis Guignon, à une moindre échelle, mais à l'échelle nationale, mais en Coupe, où c'est le même genre de match. Tu marques pas, et à un moment donné, tu te prends les buts en contre qu'il faut pas prendre. La Corogne, où t'en prends 4. Tu sais pas comment tu les prends, les 4 mêmes buts sur des corners ou des coups francs excentrés. Enfin, il se passe toujours quelque chose que tu n'arrives plus à maîtriser dans ce genre de match à la fin. Voilà, et c'est peut-être le début, ça.
Le lendemain de cette élimination, l'équipe titre, Paris sombre dans le ridicule. Alors, c'était le premier tour dans la Coupe des Coupes pour le Paris Saint-Germain, ce match face au Maccabi Haïfa. Est-ce que vous vous sentiez ridicule comme le titre d'équipe après cette élimination?
Non, mais c'est une horreur, c'est pas que le lendemain, c'est déjà dès le soir quand tu sors. Mais le vestiaire, c'est une horreur. C'est que du silence, personne ne parle. Je sais pas si ça se serait passé comme ça avec tous ceux qu'on a cités et qui ont quitté le PSG avant.
Les Roches,
Alain, Paul Le Guen, Guérin, Fournier, tous. Bernard est sans doute trop isolé ce soir-là pour le faire. Est-ce qu'il fallait tout de suite gueuler? Est-ce qu'il fallait le faire le lendemain? Je sais pas. Toujours est-il que c'est jamais fait et qu'on rentre dans un process où on se sent très, très ridicule parce qu'on t'as pas le droit, pas comme ça et pas contre le Maccabi Haïfa avec tout le respect qu'on a pour cette équipe. Tu peux pas te faire éliminer comme ça au premier tour. Impossible.
Alors, ces années 90, c'est aussi les années folles des guignols de l'info hein, sur Canal+, qui est aussi propriétaire du Paris Saint-Germain. Vous étiez quand même la cible de moqueries. Alors,
très marrant quand c'est les autres, un peu moins quand c'est toi.
Comment vous le viviez ça en interne?
Moi, tu me connais, j'adore l'humour. Donc, moi, quand je le vois, je rigole parce que c'est marrant voilà, et qu'il faut aussi rigoler de soi. Mais je sais que ça a dû faire mal à pas mal de monde.
À qui, par exemple?
Moi, je pense qu'un Denisot l'a peut-être pas bien vécu. Ouais, je pense que j'imagine, mais c'est sur sa chaîne, tu vois. C'est dur quand même. Hein, c'est dur. Moi, j'ai pas ma marionnette, tu vois, donc je le vis un peu plus de l'extérieur, même si je suis un peu concerné. Louis prenait cher, même si sur ce moment-là, c'est pas lui qui est à la tête de l'équipe, et lui, il est plutôt.
Il est dans le rôle du moqueur.
J'ai mémoire qu'effectivement, c'est un Louis qui rigole beaucoup de ce qui nous arrive. Enfin, sa marionnette, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? C'est qu'ils avaient raison de le faire, c'est tout. Ça fait partie de l'actualité et on était ridicules et ils avaient raison de se moquer.
Alors, il y a un homme qui va vite se retrouver dans la tourmente, surtout après cette défaite. C'est Alain Giresse, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. À peine sorti de l'avion qu'il ramène d'Israël, les journalistes l'attendent.
Officiellement, vous êtes toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'à dimanche?
Ah ben, on n'a pas dit autre chose pour le moment, oui. Alors, si je vous parle comme ça, sinon, je n'aurais pas été là. Si je n'avais pas été entraîneur, je n'aurais pas été dans les médias, donc je ne me serais pas arrêté.
Voilà, le match qui suivra sera déjà fatal pour Gigi. Une défaite contre Lens, comptant pour la 8e journée de Ligue 1, précipite son départ. Comment le vestiaire perçoit justement ce départ qui intervient très tôt dans la saison, hein, quand même, Pierre?
Moi, j'ai des souvenirs d'Alain Giresse, pareil, il m'en voudra pas, mais complètement abattu. Pas que après ce match-là, même avant, tu vois, avec le mauvais début de saison qu'on fait. J'ai des souvenirs d'Alain dans le vestiaire après les matchs, tu vois, le lendemain ou le surlendemain, quand tu reviens, qu'il faut repartir à l'entraînement. Et j'ai des souvenirs, c'est marrant, mais j'ai une image. Le vestiaire, il y avait des casiers, puis il y avait un endroit, c'était comme une porte entre les casiers où tu allais dans les douches, etc. Et les coachs se mettaient toujours là pour parler parce qu'ils avaient une vue d'ensemble de tous les joueurs. Et je me rappelle de lui appuyé sur les casiers. Donc tu vois, pas le langage corporel déjà pas le bon.
Il a besoin d'un soutien, quoi.
Ouais, voilà, il s'appuie et puis il nous dit « Bon voilà les gars, il va falloir qu'on s'en sorte, il va falloir qu'on y arrive, j'ai pas encore trouvé la solution, mais on va y arriver. » Et dans le discours et dans le langage corporel, tu sens qu'il ne nous envoie pas les bons signaux, tu vois. Alors après, je ne dis pas que c'est le responsable, hein, parce qu'il y a tout un contexte, on l'a évoqué avant, il y a des joueurs aussi qui n'ont peut-être pas été à la hauteur tout de suite. Il y a peut-être des erreurs de recrutement qui ont été faites. Nous qui étions déjà là, on n'était peut-être pas au top au début de saison, et en tout cas, on se cherche. Bon voilà, ce n'est pas le responsable, mais c'est celui qui est à la tête du bateau et qui normalement doit te ramener à quelque chose de plus positif, et il n'y arrive pas.
Alors, il y a pas mal d'articles de l'époque également, on s'est replongé dans les archives de la presse, notamment l'équipe et le Parisien surtout, qui évoquent une mauvaise ambiance au sein du groupe parisien. C'était vraiment compliqué en interne.
Non, moi, je n'ai pas ce souvenir-là, honnêtement, et je pourrais te le dire aujourd'hui sans problème. Je n'ai pas du tout ce souvenir-là, parce que les joueurs qui arrivent sont tous des très, très bons mecs. Moi, je suis toujours très, très en contact avec beaucoup d'entre eux, mais tu vois, un Bruno Carotti, un Nico Wedek qui ne restera pas longtemps, mais était top, un Nicolas Pal, top. Il y a que des bons mecs qui arrivent, il y a pas de Adelton, très très bon mec, voilà, il y a pas de mauvais garçons qui tirent dans le mauvais sens, etc. C'est juste que tu as une lourde page du PSG qui se tourne avec tous ces piliers dont on a parlé qui partent. On en a une qui s'ouvre très fraîche avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux qui n'ont pas du tout le même style de jeu que le nôtre à l'époque, qui viennent d'un contexte complètement différent de celui du Paris Saint-Germain, qui est déjà un peu, qui n'est pas le PSG d'aujourd'hui, pas médiatisé comme aujourd'hui, mais quand même à l'époque, c'est déjà le PSG. Et tout ça prend pas en fait, ça prend pas. Donc l'ambiance dans le vestiaire est pas mauvaise, mais on subit un peu les choses.
Alors après le départ d'Alain Giresse, c'est Arthur Georges qui effectue son retour à Paris. Alors il va pas rester longtemps non plus, il va partir dès le mois de mars qui suit. Quel souvenir tu gardes de ce comeback de l'entraîneur qui avait été champion avec le PSG en 94, que tu avais connu très jeune d'ailleurs, je crois.
Ouais, moi j'avais connu un peu de loin quand même. Moi c'est plus Louis qui me fait sortir qu'Arthur Georges, mais j'y avais été pour faire quelques séances, etc. Son premier passage, je pense qu'il a une équipe, Arthur Georges, qui se connaît par cœur, avec des mecs qui savaient quoi faire, comment faire, etc. Quand il revient au Paris Saint-Germain, il veut faire un peu la même chose. Moi, j'en ai un très mauvais souvenir, déjà personnel, parce que moi, déjà, il me sort, il me met sur le côté. Alors bon, après, pourquoi pas, c'est des choix de coach, ça, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais sur le plan collectif, en fait, on arrive tous les jours à l'entraînement et tous les jours, on fait la même chose. On fait 20 minutes de longueur et on fait nos positions. Et tu fais ça du lundi au jeudi. Le vendredi, il donne son équipe, il fait une mise en place avec son équipe de titulaire, et le week-end, on joue. Et dans le contexte où on était déjà pas bien, mais c'était usant, mais en deux semaines, on sait que c'est pas...
Vous étiez déjà dans la routine.
Ah ouais, on sait qu'au bout de deux semaines, on sait que ça va pas marcher, quoi. Mais tous, quoi, c'est ça qui est assez terrible. Et ça marche pas, effectivement.
Et alors, le troisième entraîneur cette saison-là, ce sera Philippe Bergerot, alors qui terminera 9e de Ligue 1, mais qui fera 3e la saison suivante avec le PSG. Ça, c'est un autre style encore, Philippe Bergerot.
Bah, il ramène ce qui nous manquait, c'est-à-dire, déjà, moi, j'ai le souvenir d'un homme fort, d'un homme qui sait où il va. Voilà, il nous dit des choses simples, mais rassurantes. On va jouer comme ça, dans tel système, on va faire ci, on va faire ça. Humainement, Philippe Bergerot, c'est quelqu'un de... Voilà, moi que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, qui parlait énormément, qui avait beaucoup d'humour aussi, qui savait passer des petites piques, mais avec beaucoup d'humour, etc. Donc il savait faire passer les choses et ça va beaucoup mieux au fur et à mesure. Donc cette saison, elle était tellement mal entamée qu'il peut pas faire de miracle non plus. Mais effectivement, comme tu l'as dit, après l'année d'après, ça va déjà beaucoup mieux.
Et alors cette instabilité sera aussi une réalité au sein de la direction du Paris Saint-Germain. À l'été 98, un autre grand changement s'est opéré au sein du club.
Michel Denisot quitte donc ses fonctions au PSG à la fin de la saison pour devenir chef du service des sports de Canal+. Il sera remplacé par Charles Biétry, actuel directeur des sports de la chaîne cryptée et président du PSG Omnisport le 14 juillet prochain.
Voilà, extrait du JT de France 3.
C'est un échange, en plein mercato, on a fait un échange.
Pas faux, sans option d'achat.
Sans option d'achat,
alors,
rien.
Alors c'est plutôt un prêt d'ailleurs, sans option d'achat, puisque dès décembre 98, Charles Biétry quitte la présidence du Paris Saint-Germain. Quand on a un joueur d'un club ambitieux comme le PSG, qu'on assiste à autant de changements, on se dit quoi?
Tu me pardonneras l'expression, mais que c'est la merde. Ouais, parce que c'est en fait, t'as pas que les joueurs, t'as pas que le coach, t'as aussi là-haut où ça se passe pas terrible. Je peux dire moi aujourd'hui que c'est que des gens qui avaient envie de réussir au Paris Saint-Germain. C'est pas que ce soit les joueurs, que ce soit Alain Giresse, Arthur Georges, j'ai moins eu d'échanges avec lui et ça a été trop vite pour le savoir. Mais et que ce soit Charles Biétry, c'est que des personnes qui étaient vraiment passionnées du foot et qui avaient très envie de réussir au PSG. Mais voilà, une fois de plus, les choses n'ont pas été bien faites, en fait. Ça a été fait trop vite, pardon, entre le moment où tu coupes cette génération qui a été sans doute une des meilleures, si ce n'est la meilleure génération du Paris Saint-Germain pour moi, qui arrive à gagner une Coupe d'Europe, etc. Et ce que tu veux reconstruire derrière, ça va trop vite. Et donc, personne n'est prêt à ça. Ni les joueurs, ni les coachs qui ont défilé, ni les dirigeants.
Et pour finir, Pierre, en guise de conclusion et pour revenir sur ce match face au Maccabi Haïfa, est-ce que tu dirais que c'est cette rencontre qui a plombé votre saison, voire plus encore, tu faisais référence à ce que tu appelles l'ADN du PSG?
Je pense que ça fait partie des rencontres qui sont le détonateur, voilà, qui peuvent être le détonateur d'une situation qui est déjà là, voilà, qui est latente. On fait un mauvais début de saison. Il y a plein de choses qui se seraient passées même s'il n'y avait pas eu le Maccabi Haïfa. Alors peut-être pas autant, peut-être pas aussi vite. Mais c'est un détonateur, ouais, très, très, très honnêtement, oui, c'est un tournant de la saison où tu sais que ça va être compliqué toute la saison quasiment.
Pierre Ducrot, merci d'avoir été avec nous.
Bah de rien, c'est très agréable quand je reviens de parler de tout ça. Merci beaucoup.
Voilà, on a prévu de te parler du 6-1 après face à la Juve.
Ah, je n'étais pas là, c'est pas moi.
Ouais, mais c'est pas grave,
c'est pas moi.
Merci beaucoup Pierre Ducrot.
Merci à vous.
À très vite. On va maintenant évoquer le Maccabi Haïfa 2.0, celui d'aujourd'hui. Avant d'accueillir Jonathan Onamani, spécialiste du football israélien, petite parenthèse musicale avec l'un des tubes de cette saison 98-99 qu'on vient d'évoquer, That's My People, Ryan Pierre. That's my people.
kiff, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic mec et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas.
Analysons maintenant le Maccabi Haïfa d'aujourd'hui. Que vaut cette équipe? Comment joue-t-elle? Accueillons Jonathan Namani, spécialiste du football israélien qui bosse notamment pour l'équipe. Salut Jonathan, merci d'être avec nous.
Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde.
Alors on vient de revivre le duel entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain de 98. Est-ce qu'en Israël aussi c'est la première chose à laquelle on a pensé au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions de cette saison, de ce match?
Ouais, forcément Nicolas, parce que ce match de l'automne 98, il appartient à la mémoire collective hein, en Israël, même si cela renvoie à une certaine époque avec cette défunte Coupe des vainqueurs de Coupe. Et depuis, le Maccabi Haïfa a grandi et a participé à deux phases de poule de Ligue des Champions. Le Maccabi, c'est le club phare en Israël avec le Maccabi Tel Aviv.
Alors, ce duel de 98 s'était déroulé au stade Kiryat Eliezer. Pierre Ducrot nous disait qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, il est très marqué par l'ambiance qui régnait. Depuis, les Verts jouent à Sami Ofer, si je dis pas de bêtises. Est-ce que niveau ambiance, c'est toujours aussi chaud qu'à l'époque?
Bah, j'ai envie de dire que c'est encore plus chaud parce que le stade Kiryat Eliezer qui était le théâtre de ce Haïfa PSG de 98 avait une capacité, on va dire, de 15 000 places. Donc c'est déjà, l'ambiance était électrique. Mais là, le stade Sami Ofer, c'est une capacité de 30 000 places. Donc c'est un petit peu le Geoffroy Guichard d'Israël. Hein. C'est l'ambiance, elle est un petit peu folle, électrique. Et c'est un stade qui répond vraiment à tous les standards européens. Il a été inauguré en août 2014 et il est financé par l'homme d'affaires israélien Sami Ofer. Donc c'est pour ça qu'il porte ce nom, stade Sami Ofer.
D'accord. Et alors, quelle est l'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui en Israël? Parce qu'il a beaucoup changé hein, depuis 20 ans aussi. Hein.
Alors, il faut savoir qu'en Israël, les matchs du PSG sont suivis chaque semaine en direct à la télévision au sein des chaînes sportives israéliennes. Le public israélien est raffole de Messi, Neymar et Mbappé. C'est un club qui est devenu très populaire. Il est très à la mode en Israël. J'avais même envie de dire qu'il est même au-dessus des Real Madrid et du FC Barcelone, deux clubs que le public israélien aime aussi énormément.
מגיע אליו, ולוי כובש! מכבי חיפה, סופית, רשמית, אלופת המדינה לשנת 2022. מכבי חיפה, אלופת המדינה לעונת 21-22.
La célébration du Maccabi Haïfa, champion d'Israël 2022. Est-ce que Jonathan, c'est la grosse équipe du championnat israélien, le Maccabi Haïfa?
Oui, c'est sûr. C'est surtout que le Maccabi Haïfa a entamé la nouvelle saison de la meilleure manière possible avec trois victoires en autant de matchs. Ils ont gagné dernièrement sur le terrain de l'Hapoël Beer Sheva, hein, qui était deuxième de la Ligue israélienne l'an passé. Évidemment, c'est l'équipe à battre. Maccabi Haïfa est toujours invaincu, tout comme le Maccabi Tel Aviv. Et c'est vrai qu'il faut le souligner, Nicolas, jusqu'à très peu de temps encore, le Maccabi Haïfa avait, on l'a dit tout à l'heure, participé à deux phases de poule de Ligue des Champions, mais maintenant c'est sa troisième participation. C'est mieux que le Maccabi Tel Aviv qui a participé à deux reprises. Et c'est mieux, évidemment, que l'Hapoël Tel Aviv, qui a participé aussi à une seule reprise.
Alors, quelles sont les forces de cette équipe? De quoi le PSG va devoir se méfier? Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une équipe dont on a beaucoup parlé ces dernières saisons, on va dire au premier plan, notamment européen.
Oui, c'est sûr. Alors, c'est un groupe homogène. Hein, il n'y a pas vraiment véritablement de stars. Je pense qu'il faut avant tout surveiller certains éléments, comme le milieu Charon Cherry, qui vient du Suriname. Aussi, l'attaquant israélien Dolev Aziza, qui est au club depuis 2018, c'est aussi un élément intéressant. Après, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a aussi quelques noms qu'on connaît hein, en France.
Alors, vas-y.
Comme Frenzy Pierrot, voilà, qui est l'ancien Guingampé.
Voilà. Il y a Batoubine Sika aussi qui est arrivé dans les toutes dernières heures du Mercato, qui était formé au PSG d'ailleurs.
Exactement, et qui a une expérience en D1 belge à Antwerp, en D1 portugaise à Famalicão, donc c'est une bonne recrue pour le Maccabi. Et il y a aussi Pierre Cornu, hein, qui a joué à Montpellier, à Dijon, et qui a aussi pas mal bourlingué en Espagne, notamment en D2 espagnol. Donc c'est des joueurs qui c'est pas des grandes stars, mais qui ont un parcours assez intéressant et atypique. Et puis Frenzy et Pierrot, il faut le souligner aussi, il n'a pas démarré la saison de la meilleure manière possible en Israël, parce qu'il avait raté un penalty lors de son premier match officiel. Et ensuite, il s'est bien rattrapé, il faut le souligner, en marquant des buts importants en tour préliminaire, hein. Notamment un doublé contre l'Olympiakos, qui a fait beaucoup de bien au Maccabi.
Alors, tu faisais référence il y a quelques instants au Maccabi Tel Aviv. Que représente le Maccabi Haïfa dans l'histoire du football israélien?
Alors, c'est un des clubs les plus prestigieux, hein, 14 titres de championnat à son actif, c'est le premier club israélien qui a participé à la phase de poule de Ligue des Champions, c'était en 2002-2003, et il y a eu des grands noms, hein, qui sont passés par le Maccabi Haïfa, et on pourra citer notamment Yossi Benayoun, qui avait
joué contre le PSG d'ailleurs il y a 20 ans.
Exactement, c'est lui qui égalise au Parc dans les 10 dernières minutes après le penalty de Marco Simone. Et à l'époque, il n'avait que 18 ans, donc c'était vraiment un jeune prodige. Et ensuite, voilà, il a du Maccabi Haïfa, il est resté quelques saisons, et ensuite il a rebondi en Espagne et puis en Angleterre, on s'en souvient, notamment à West Ham, Liverpool et Chelsea.
Alors, tu faisais référence à Sami Hofer, qui est le financier, hein, du club, du Maccabi Haïfa. C'est quoi le budget d'un club comme celui-là?
Alors, le Maccabi Haïfa, c'est autour de 25 millions de dollars, donc c'est à peu près, voilà, 25 millions d'euros, tout comme celui du Maccabi Tel Aviv. Donc c'est vraiment le petit poussé, hein, de cette Ligue des Champions, mais pour le championnat israélien, c'est quand même un gros budget, voilà, avec des vraies structures, un centre d'entraînement digne, voilà, d'un très bon club européen, un beau stade, on l'a dit. Donc voilà, c'est 25 millions de dollars.
Et le Maccabi Haïfa participe donc pour la troisième fois de son histoire à la phase de groupe de Ligue des Champions, tu le disais Jonathan il y a quelques instants, 20 ans tout juste après sa première dans cette compétition.
Jacobo.
Et ouais, au cours de cette saison 2002-2003, le Maccabi Haïfa avait notamment battu Manchester United 3-0, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'était assez incroyable cette campagne, on ne s'y attendait pas. Hein. Vous l'avez rappelé, cette première participation, voilà, il y a 20 ans. Et une victoire 3-0 contre Manchester et le même score contre l'Olympiakos 3-0. Il avait fait aussi match nul 3 partout au Pirée. Donc ce qui avait valu le droit au Maccabi quand même de terminer à la troisième place de son groupe et d'être reversé en Coupe de l'UEFA, et après ensuite ils ont été battus lourdement par l'AEK Athènes.
Alors dans un contexte, hein, géopolitique toujours très, très compliqué, très tendu, ils ne jouaient pas leur match à domicile en Israël en plus, hein, à cette époque-là.
Leur performance est d'autant plus remarquable, le contexte ne permettait pas au Maccabi de jouer dans son stade de Haïfa, voilà, c'était le déclenchement de la deuxième intifada. Du coup, l'UEFA avait décidé de délocaliser, hein, les matchs à domicile du Maccabi en Ligue des Champions, et le Maccabi Haïfa avait élu domicile donc au GCP Stadium de Nicosie, qui était devenu son petit fief, et beaucoup de supporters du Maccabi, hein, avaient à chaque fois fait le déplacement, parce que entre Tel Aviv et Nicosie, il y a moins d'une heure d'avion, donc les Israéliens ils étaient allés en masse à soutenir leur équipe, et manifestement ça a marché.
Alors le Maccabi Haïfa, cette saison, lors de la première journée, s'est incliné 2-0 au Benfica lors de la première journée de Ligue des Champions. C'est quoi l'objectif du Maccabi Haïfa en Coupe d'Europe, sachant que tu l'as rappelé, ils n'ont pas un gros historique dans cette compétition?
Non, ils n'ont pas un gros historique. Voilà, ils ont joué hier à Benfica leur 13e match, hein, de phase de poule. Donc c'est vraiment, ils apprennent au fur et à mesure cette exigence de la Ligue des Champions. Après, j'ai envie de dire, ils ont déjà réalisé leur exploit, hein, les Israéliens, après avoir sorti l'Olympiakos, la Pologne Limassol et puis l'Étoile Rouge de Belgrade, ce qui n'est pas rien, en tour préliminaire et en barrage. Donc là, j'ai envie de dire, tout ce qui peut arriver pour le Maccabi, c'est en plus. Voilà, au mieux ils peuvent espérer la troisième place, mais ça va être très compliqué parce que Benfica c'est quand même aussi du lourd.
Merci beaucoup Jonathan Damani, spécialiste du football israélien, d'avoir été avec nous dans ce podcast After Galaxy. À très bientôt Jonathan.
Merci à vous, à très bientôt.
Merci Arthur, Robert, Jérôme, Thomas à la production. Merci Charline Fina à la réalisation. Rendez-vous sur RMC, RMC Sport le 14 septembre pour le duel entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.